Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans un sermon précédent, un père vous a donné les arguments sur le dogme de l'existence du purgatoire. L'existence du purgatoire est une réalité à laquelle nous devons croire si nous voulons être sauvés. Si la Sainte Église nous demande d'y croire, c'est parce qu'elle sait, en bonne mère, que la connaissance de cette vérité nous est très utile. Le purgatoire est une réalité terrible et consolante à la fois. Il est un lieu qui n'est pas comparable à la salle d'attente d'une gare, où nous prendrions notre mal en patience en attendant le train qui doit nous conduire au paradis. Non. C'est d'abord une réalité terrible par les deux choses qui nous font souffrir. La première, c'est la privation de la vision de Dieu. Au purgatoire, l'âme est attirée par l'amour divin. Mais ce désir ardent qu'elle a de voir Dieu est empêché par la vue de ses imperfections. Sainte Catherine de Gênes dit à ce sujet, « La divine essence est si pure que l'âme, trouvant en elle-même la plus légère imperfection, se jetterait d'elle-même dans un millier d'enfers plutôt que de paraître souillée en présence de la divine majesté. » Un peu plus loin, elle explique que la purification de l'âme est progressive. Plus l'âme connaît Dieu parfaitement, plus elle désire s'unir à lui et plus les empêchements à cette union lui causent une peine intolérable. La deuxième chose qui fait souffrir l'âme est le feu, bien sûr. Ce feu est le même que celui de l'enfer. Au dire de tous les docteurs, ce feu est terrible. Saint Thomas, par exemple, les fournaises les plus ardentes, les feux les plus cuisants auxquels on condamnait les martyrs ne sont qu'une ombre légère en comparaison des flammes dévorantes qu'on souffre en purgatoire. Ce feu est égal en tout à celui de l'enfer. Moins la durée, dit saint Thomas. Demandez à des grands brûlés ce qu'ils ont ressenti. Nous en avons un exemple. En fin d'été, voilà un ancien élève de l'école Sainte-Philomèle qui était gravement brûlé. Demandez-lui la douleur qu'il a ressentie. Et vous aurez un faible aperçu de la douleur cuisante du feu du purgatoire. Le bon Dieu sait combien nous avons du mal à croire en la réalité du feu du purgatoire. C'est tellement plus simple d'ignorer cette réalité ou de l'atténuer. C'est pourquoi sa divine miséricorde nous a laissé à travers toute l'histoire de nombreux témoignages avec des traces sensibles de l'existence de ce feu. Ces témoignages sensibles, ces traces sensibles, sont si nombreuses qu'on en a fait un musée du purgatoire à Rome. D'autres traces sont conservées dans des couvents, dans des monastères. C'est le cas au couvent Saint-Dominique à Zamora en Espagne. Dans ce couvent vivait un dominicain très vertueux, uni d'amitié avec un frère franciscain. Ils parlaient fréquemment entre eux, quand ils se rencontraient, de choses spirituelles, et ils se promirent, si Dieu le permettait bien sûr, de s'avertir l'un l'autre de leur sort après la mort, afin de pouvoir se porter secours. Le frère franciscain mourut le premier. Il apparut au frère dominicain alors que celui-ci était en train de préparer le réfectoire pour le repas de la communauté. « Il me reste, lui dit-il, beaucoup à souffrir pour l'expiation d'une infinité de choses légères, dont je n'ai pas eu un assez vif repentir. » Alors, pour exciter son ami à travailler à sa délivrance, il lui fait voir les flammes dont il était dévoré. « Rien sur la terre, lui dit-il, ne peut vous donner une idée de l'ardeur de ce feu. » En voulez-vous une preuve sensible ? Il étendit la main droite sur la table du réfectoire et la marque s'y enfonça aussitôt profondément, comme si on avait passé un feu rouge. Le frère dominicain, les autres frères, alertés par l'odeur de brûlé, accoururent et finalement leur zèle fut excité pour faire tout ce qui était possible pour délivrer leur ami. Cette table, témoin du feu du purgatoire, est toujours conservée au couvent de Zamora. Le purgatoire est aussi une réalité consolante. Ce feu dévorant, c'est une miséricorde de Dieu. Comment ça, une miséricorde, vous me direz ? C'est horrible, c'est une torture. Oui, mais le but n'est pas de faire souffrir. Le but, c'est de purifier pour pouvoir faire entrer l'âme au ciel. Donc ce feu provient de l'amour de Dieu. Dieu retient l'âme dans les flammes, dit sainte Catherine de Gênes, jusqu'à ce que chaque tâche soit dévorée. L'âme atteint alors la plus haute perfection dont elle est capable. Elle devient parfaitement sainte. Et quand elle est parfaitement purifiée, eh bien, elle peut aller se reposer en Dieu pour l'éternité. Et elle ne peut plus souffrir. De sorte que si elle s'approchait de ce feu qu'elle vient de quitter, eh bien, elle ne ressentirait aucune douleur. On en a de la preuve quand dans les histoires du purgatoire, on voit la Sainte Vierge Marie qui, à ses fêtes, vient au purgatoire délivrer des âmes. La Sainte Vierge Marie, elle y va en corps et âme, et elle ne souffre pas du feu. Le feu n'atteint plus les êtres qui sont au ciel. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce feu ? C'est un feu qui atteint l'intime de l'âme et qui fait souffrir s'il trouve justement des imperfections, des tâches qui n'ont pas été expiées sur la terre. Il atteint là l'intelligence, la mémoire, la volonté, la sensibilité pour en détruire toute imperfection. On pourrait, pour mieux faire comprendre, prendre la comparaison suivante. Au purgatoire, une âme est comme atteinte d'un cancer. Pour retrouver la santé parfaite, qui est la vie du ciel, le divin médecin va faire comme le médecin de la terre. Il va utiliser les rayons pour brûler toutes les mauvaises cellules qui restent dans l'âme. Plus il y a de tâches dans toutes les facultés de l'âme, plus les séances de rayons seront longues et douloureuses. Les âmes du purgatoire sont affermies en charité, donc leur volonté est parfaitement soumise à Dieu. Dieu opère en elles par ce feu pour leur procurer la santé parfaite, le bonheur surnaturel sans fin. Donc, il ne viendrait pas l'idée à un malade de la terre de se plaindre du médecin qui serait parfait et qui serait sûr de guérir le malade, de se plaindre de l'opération, de la séance de rayon. Eh bien, au purgatoire, c'est la même chose. L'âme ne peut pas se plaindre de ce qu'elle souffre parce qu'elle sait que c'est pour son bien. Au milieu des souffrances de ce feu, eh bien, ces âmes restent en paix. Elles n'ont plus de volonté propre. Et donc, elles sont dans une sainte indifférence, ne voulant que ce que Dieu veut. Sainte Catherine de Gênes en tire plusieurs conséquences. Les âmes du purgatoire n'ont pas de retour sur elles-mêmes, se disant par exemple, « Si je n'avais pas commis tel péché, je serais maintenant en paradis. » Non, il n'y a rien de tel. C'est pour ça qu'il faut se méfier d'une certaine littérature pieuse qui emploie ce genre d'expression, c'est pour mieux nous faire comprendre, mais ça ne correspond pas à la réalité. Ces âmes ne peuvent, dit la sainte, ni penser à leur souffrance, ni à leur profit personnel. Par exemple, si des fidèles de la terre offrent de pieux suffrages pour leur soulagement, elles ne peuvent en avoir de satisfaction personnelle. Vous allez me dire, mais alors elles ne sont pas contentes qu'on prie pour elles ou qu'on fasse des sacrifices. Si, mais pas personnellement. Elles voient seulement les choses en Dieu, et si Dieu permet qu'elles soient soulagées maintenant ou plus tard, dans quelques semaines ou dans quelques années, elles sont parfaitement soumises à la volonté du bon Dieu. Ce n'est qu'au moment de la mort que les âmes voient pourquoi elles sont envoyées au purgatoire et qu'elles voient leurs responsabilités. Mais une fois qu'elles sont au purgatoire, elles n'ont d'autres volontés, d'autres désirs que la pure volonté et le parfait amour de Dieu. Face à cette réalité du purgatoire, quelle doit être notre attitude ? Ce que le bon Dieu accomplit par miséricorde dans les âmes du purgatoire, il veut l'accomplir d'une autre manière en nous, ici-bas. Il veut que nous correspondions à la multitude de grâces qu'il nous envoie, afin que nous menions une vie de plus en plus chrétienne, que nous écoutions son Fils bien-aimé et mettions en pratique tout ce qu'il nous a enseigné. Le travail de purification et d'union à Dieu qu'il opère dans l'âme au purgatoire par le feu, il veut l'opérer ici-bas par la pénitence et la pratique de la charité. On ne peut pas aller au ciel si on ne fait pénitence et si on ne pratique la charité. Ces deux choses, pénitence et charité, nous la pratiquerons plus facilement en nous appliquant à soulager les âmes du purgatoire. Ça sera un stimulant pour les pratiquer. Et nous ferons d'une pierre deux coups. Il n'est rien de plus agréable au Seigneur, dit saint Augustin, que le soulagement et la délivrance des fidèles trépassés. Alors, envers ces âmes, nous pouvons pratiquer tout d'abord l'aumône de la prière et principalement de la Sainte Messe, tout en faisant du bien à ces âmes, par la prière, en faisant dire et assister aux messes qu'on fait dire. Eh bien, ce sera une occasion pour nous de prier, d'assister à la messe, de communier avec plus de ferveur. Comme dans l'exemple suivant, rapporté par un père dominicain du XIXe siècle. Un paysan polonais vient de mourir. Sa pieuse épouse prie sans cesse pour le repos de son âme. Elle désire faire célébrer une messe en l'honneur du Sacré-Cœur pour le repos de son âme, mais étant pauvre, elle ne peut acquitter l'honoraire. Alors elle va trouver un riche personnage, un philosophe incrédule. Elle lui expose l'objet de sa demande et lui, attendri par son récit, lui accorde l'offrande. La veuve fait aussitôt célébrer la messe à la chapelle du Sacré-Cœur. Elle y communie avec toute la ferveur possible. Quelques jours après, Dieu permit que le paysan défunt apparût au riche bienfaiteur. « Je vous remercie de l'aumône que vous avez faite. J'ai été délivré du purgatoire par cette messe. En reconnaissance, je viens vous annoncer qu'il faut vous réconcilier avec Dieu, car vous allez bientôt mourir. » Et en effet, cet homme tomba malade et il mourut quelques jours après, mais il eut le temps de se convertir, de faire venir un prêtre et de mourir chrétiennement, plein de reconnaissance envers le Sacré-Cœur. Nous avons un autre moyen de venir en aide aux âmes du purgatoire. C'est d'accepter et d'offrir les pénitences. Rappelons-nous que ces âmes sont au purgatoire parce qu'elles n'ont pas suffisamment fait pénitence sur la terre. En faisant pénitence pour elles, nous abrégerons leur peine. Nous travaillerons aussi pour nous, en diminuant la dette due à nos péchés. En effet, si notre dette n'est pas soldée à notre mort, eh bien, nous irons au purgatoire. Alors, quelle pénitence pouvons-nous faire ? Les souffrances les plus méritoires sont celles que nous ne choisissons pas, parce qu'on ne peut pas y mêler d'orgueil. Par exemple, celles imposées par la divine providence. Le bon Dieu les place avec sagesse sur notre route. Personne n'y échappe. Avec la grâce nécessaire pour les porter et les offrir courageusement. Ce sont les afflictions, les peines d'esprit, de cœur, les souffrances du corps, inévitables en ce monde. Alors profitons de ces petites souffrances, le froid, le chaud, les incommodités, les fatigues, les lassitudes, les contrariétés de toutes sortes. Au lieu d'assombrir notre vie, de la languir, si nous les offrons généreusement, elles dilateront notre cœur. Elles nous détacheront du péché, des choses d'ici-bas, de nous-mêmes. Et en conséquence, bien, nous nous rapprocherons de Dieu. Nous nous sanctifierons. Et nous nous ferons des amis dans les âmes du purgatoire, qui, une fois au ciel, intercéderont pour nous. Les âmes bienheureuses que vous avez délivrées du purgatoire, dit Saint Léonard de Port-Maurice, descendront du séjour de gloire pour mener à bonne fin ici-bas vos affaires temporelles et spirituelles. C'est ce qui s'est passé dans l'exemple suivant. Une mourante, particulièrement dévote aux âmes du purgatoire, est assaillie par le démon. Le démon, il fait son travail à l'heure de la mort, il vient pour nous désespérer. Elle luttait courageusement depuis quelque temps, lorsqu'elle vit entrer dans son appartement une foule de personnes inconnues, resplendissantes de beauté, qui mirent en fuite le démon et lui adressaient des encouragements et des consolations toutes célestes. « Qui êtes-vous ? » dit la mourante. « Nous sommes des habitants du ciel. » Que vos suffrages ont conduit à la béatitude. Nous venons pour vous aider à franchir le seuil de l'éternité et vous introduire dans la cité sainte. » À ces mots, la mourante eut un sourire qui éclaira son visage et elle expira doucement. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie cette grâce d'embrasser pour tout de bon une vie pénitente et généreuse, pour l'amour de Dieu et pour le salut des âmes, et nous mériterons ainsi de mourir pieusement comme cette dame. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.